الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فلك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، لك الحمد على ما أنعمت به علينا من هذه النعمة العظيمة، الاجتماع مع من يشاركنا في العقيدة. اللهم لك الشكر، اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. لك الحمد حمدا ولك الشكر شكرا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous voici une nouvelle fois réunis dans cet endroit béni, Mecca, là où est né le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, là où il a démarré son prêche, là où il a réuni les cœurs des gens sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voici réunis fraternellement dans cet endroit et dans ce mois béni, le mois de Ramadan, au cours duquel Allah Azza wa Jal a fait descendre le Coran. Nous voici réunis dans cet endroit, dans cette période, dans la 27e nuit du mois de Ramadan, une où la nuit du destin est le plus espérée. Bien qu'Allah Azza wa Jal soit le seul à connaître quand est-ce que la nuit du destin a lieu, mais certains salafs espéraient énormément et d'autres allaient même jusqu'à jurer par Allah Azza wa Jal que cette nuit-là était la nuit du destin et c'est Allah qui sait mieux. Dans cet environnement, dans ce moment, dans cet endroit, Allah Azza wa Jal nous déverse ses bienfaits sur lui. Il nous permet de parler de lui. Parler d'Allah Azza wa Jal, dhikrullah tabaraka wa ta'ala, c'est la quiétude des cœurs. C'est le repos de l'âme. C'est la base même de la réussite. Celui qui évoque le nom d'Allah est vivant. Celui qui n'évoque pas le nom d'Allah est mort. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. L'image de celui qui évoque son Seigneur et de celui qui n'évoque pas son Seigneur est semblable au vivant et au mort. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit: القلب مع الذكر كالسمكة في الماء. Il dit: le cœur avec le rappel d'Allah Azza wa Jal est comme le poisson dans l'eau. Si tu sors le poisson dans l'eau, si tu sors le poisson de l'eau, qu'adviendra-t-il de celui-ci? La mort, n'est-ce pas? J'ai médité cette parole-là et je me suis dit, subhanallah, quand tu sors le poisson de l'eau, il ne meurt pas tout de suite. Il souffre d'abord. Il suffoque. Il bouge de plus en plus, parce qu'il recherche son eau, entre espoir et crainte que ça ne soit trop tard pour lui. Et plus il s'excite à bouger partout, plus il dépense en énergie. Plus il dépense en énergie, plus il se rapproche de sa mort. C'est l'image de celui qui s'éloigne du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. À quoi ça sert de vivre loin d'Allah azza wa jalla, sans rappeler son nom, alors que tous les bienfaits que tu as ne viennent que de lui? Il t'a donné cette santé que tu as, ces biens que tu possèdes, ces jouissances desquelles tu profites. Et après tout ça, toi, le faible serviteur, tu vas l'oublier. Allah Azza wa Jalla a dit, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et celui qui s'écarte de mon rappel mènera une vie pénible, une vie pleine de gêne, et sera ressuscité le jour de la résurrection aveugle. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Il dira, ô Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que j'étais clairvoyant? Je me souviens que j'étais voyant dans cette vie d'ici-bas. Je ne comprends pas, ô Seigneur, pourquoi je suis aveugle ici. Allah Azza wa Jalla lui dira, قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Il en est ainsi, car quand nos signes venaient à toi, tu les oubliais. Alors de même, aujourd'hui, te voici oublié. Qu'Allah Azza wa Jalla ne nous oublie pas. Et Allah Azza wa Jalla a des noms et des attributs. Parmi les attributs qu'il a, Azza wa Jalla, le fait qu'il oublie son serviteur. وَمَعْنَ النِّسْيَانِ هُوَ التَّرْكِ وَلَيْسَ الذُّهُولِ. Quand on dit qu'Allah oublie son serviteur, cela ne veut pas dire qu'il ne se rappelle pas de lui, comme c'est le cas pour l'homme qui oublie. Mais cela veut dire qu'il l'abandonne. Il le laisse s'en remettre à lui-même. Il ne l'aide plus et ne le rapproche pas de lui. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit que celui qui oublie le rappel d'Allah Azza wa Jal sera puni doublement. La première, on la retrouve, la première punition, on la retrouve dans Surat Al-Hashr, où Allah Azza wa Jal dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, car il leur a fait oublier leur propre personne. Ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu la mémoire, qu'ils ne se rappellent plus de leur nom, des membres de leur famille, de l'endroit où ils habitent, de leurs activités. Loin de là, ils se rappellent bel et bien de tout ça. Mais ça veut dire, comme l'a dit l'imam Muhammad al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal va leur faire oublier d'œuvrer dans leur intérêt. Ils vont oublier de faire ce qui est bon pour eux. Ils vont oublier de faire les bonnes actions. Ils vont oublier de prononcer des bonnes paroles. Ils vont oublier tout ce qui revient dans leur intérêt et tout ce qui pourrait leur apporter des résultats, des récompenses et yawm al-qiyama. Ça, ils vont oublier de le faire. Et c'est la première punition, elle se fait dans ce bas monde. La deuxième, c'est fil akhirah. C'est dans l'au-delà. Allah Azza wa Jalla a dit نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ. Allah les a oubliés, ils ont oublié Allah, alors Allah les a oubliés. Subhanahu wa ta'ala. Il les a oubliés, il les a abandonnés. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit أَجْمَعَ الْعَارِفُونَ. Les connaisseurs d'Allah sont unanimes pour dire أَنَّ التَّوْفِيقَ أَلَّا يَكِلَكَ اللَّهُ إِلَى نَفْسِكَ. Que l'assistance qu'Allah t'accorde pour réussir consiste au fait qu'Allah ne te laisse pas t'en remettre à ta personne. وَأَنَّ الْخُذْلَانَ أَنْ يَكِلَكَ إِلَى نَفْسِكَ. Et que l'abandon qui cause la perte et la non-réussite consiste au fait qu'il te laisse t'en remettre à ta personne. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam disait et encourageait les musulmans à dire chaque matin et chaque soir يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. Ne me laisse pas m'en remettre à ma personne, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. طرفة عين. Tu ouvres ton œil et tu le fermes. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'abandonne juste le temps de cligner des yeux, wallah al-azim que tu es perdu. Et c'est pour ça que Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir, rahimahullah, un tabi'i, fils d'un compagnon, a dit, لو أخرج قلبي من صدري. Si on faisait sortir mon cœur de ma poitrine. ثم وضع في يدي. Et qu'on le posait dans ma main. ثم وضعت الخيرات كلها في يدي الأخرى. Et qu'on posait sur mon autre main tous les biens. C'est-à-dire tout ce que les gens voudraient avoir. Tout ce que tu aimerais avoir dans ton cœur. Et tout le bien que tu voudrais avoir. Il te fait une image. Il te dit si mon cœur était dans une main et tout le bien dans une autre et qu'il suffisait pour pouvoir acquérir tout le bien de le prendre avec la main et d'aller le poser dans le cœur. Il dit, ça ne serait pas possible. Sauf si c'est Allah qui le fait. Subhanahu wa ta'ala. Il se rappelle qu'il ne peut rien sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans la réussite qu'Allah lui offre. Et c'est pour ça que Allah azza wa jal a rappelé cela à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la bataille de Badr, alors que la bataille se faisait intense et difficile, les koufars de Quraysh étaient là à vouloir tuer les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé sa main tellement haut qu'on voyait la blancheur de ses aisselles. Et il a dit, Allahumma intuhlik hadhihi al-isaba, si, oh Allah, si tu laisses périr ce groupe de croyants, lan tu'bada fil ard, tu ne seras plus adoré sur terre. C'est impressionnant. Il est en danger. On essaie de le tuer. Ses compagnons, on essaie de les tuer. Et lui, la seule chose qu'il demande à Allah, il dit à Allah, si ce groupe de croyants meurt, tu ne seras plus adoré sur terre. Son seul souci, c'est le tawhid. L'unicité d'Allah Azza wa Jal. Sa seule peine. Alors Allah Azza wa Jal lui a envoyé Jibril alayhi salam. Jibril est venu et lui a dit qu'Allah lui ordonne de ramasser des petits cailloux sur la terre et de les lancer dans les visages de l'ennemi. Jibril alayhi salam lui a demandé de faire ça. Le prophète sallallahu alayhi salam a ramassé avec sa main et a lancé. Et Allah Azza wa Jal a fait en sorte que tous les visages qui étaient là ont été touchés. Tous les visages des ennemis ont été touchés. Hada tawfiqullah. C'est ça qu'on appelle le tawfiq, la réussite qu'Allah t'accorde, l'assistance divine. Le tawfiq. Plus tard, Allah Azza wa Jal va révéler des versets à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et va lui dire wa ma ramayta idh ramayta. ولكن الله رمى. Et ce n'est pas toi qui as lancé quand tu as lancé, mais c'est Allah qui a lancé. Si tu médites bien ce verset-là, tu es étonné de l'éloquence du Coran et du sens de ce verset. Ce n'est pas toi qui as lancé. Allah a nié quand tu as lancé. Et maintenant, il affirme. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui as lancé indépendamment de la volonté d'Allah quand tu as lancé. Mais c'est Allah qui t'a aidé. C'est Allah qui t'a montré comment le faire et qui t'en a donné la capacité et qui t'a permis d'aboutir. Donc en réalité, tout vient d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que ça fait partie, mes très chers frères, d'une des catégories de shirk al-asghar, isnadun ni'am ila ghayr al-mun'im, de rattacher le bienfait à autre que le bienfaiteur. Et Allah Azza wa Jal a dit, فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. N'assignez donc pas à Allah des égaux alors que vous savez. Un salaf, j'ai un doute entre Qatada et Mujahid, rahimahumullah, vous retrouverez cela dans Tafsir Ibn Kathir, a dit, pour expliquer ce verset, هو الرجل, il s'agit d'un homme. Qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? يقول هذا مالي ورثته عن آبائي. Il dit, de l'argent qu'il a, c'est mon argent, ça vient de mes ancêtres. Au lieu de dire, c'est grâce à Allah, ça vient d'Allah Azza wa Jal, il a dit, c'est mon argent, je l'ai eu de mes ancêtres. Il n'a pas parlé d'Allah dans ce bienfait. Il n'a pas rattaché le bienfait à Allah Azza wa Jal. Ce salaf qui explique le verset, fait ce qu'on appelle un tafsir bil mithal, une explication par un exemple. Le verset, son sens est plus vaste. Et vous allez voir dans le tafsir du Coran, vous allez voir un salaf qui donne une parole, un autre qui en donne une autre, un troisième qui donne une autre explication, et vous allez penser qu'ils divergent. Ils ne divergent pas. Ils sont tous d'accord. Mais chacun explique le verset avec quelque chose qui est compris dans le sens global. Et c'est pour ça que les savants du tafsir disent que lorsqu'il y a plusieurs explications qui ne se contredisent pas, alors ça rentre dans ce que l'on appelle ikhtilaf al-tanawwu'. C'est-à-dire que c'est une diversité de propos, mais qui convergent au final. Ils ne sont pas en désaccord. L'essentiel, c'est que rattacher le bienfait à Allah subhanahu wa ta'ala est extrêmement important. La plupart, vous êtes en train d'apprendre. Et d'autres, vous avez des autres bienfaits. Allah vous facilite des activités. Il vous facilite plein de choses. Que ce soit ce bienfait ou l'autre, il faut le rattacher à Allah Azza wa Jal. Ne crois pas que c'est parce que tu es intelligent. Ne crois pas que c'est parce que tu es capable, que tu as du temps libre, que tu as la volonté. Mais dis-toi que tu es un faible esclave d'Allah Azza wa Jal. Et c'est lui qui t'a mis à tel endroit, puis à tel endroit, puis à tel endroit. C'est lui qui t'a enseigné telle chose, plus telle chose, puis telle chose. C'est lui qui t'a accordé telle subsistance, puis telle subsistance, puis telle subsistance. Et ça, c'est un des sens des noms d'Allah, Al-Awwal wal-Akhir. Al-Awwal wal-Akhir, on traduit approximativement par le premier et le dernier, font partie des noms qui sont obligés d'aller ensemble. C'est pour ça que dans les textes, tu vas voir, par exemple, dans Suratul Hadid, Al-Awwal wal-Akhir, c'est le premier et le dernier, ça va ensemble. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, qui dit dans le Hadith, Anta al-Awwalu falaysa qablaka shay. Tu es le premier avant lequel rien ne fut, le dernier avec le, après lequel rien il n'y aura. Un des sens voulus par ces deux noms-là, c'est qu'Allah Azza wa Jal est avant le bienfait que tu as, et après. Toi, tu n'y es pour rien, si ce n'est que tu as fait des causes. Tu as pu aboutir à un projet, tu as pu obtenir quelque chose. Avant tout ça, il y avait Allah. Et quand tout ça va disparaître, il y aura Allah Azza wa Jal. Allah te cerne, subhanahu wa ta'ala. Il faut donc être reconnaissant envers lui pour ses bienfaits. Les sahaba radiyallahu ta'ala anhum s'asseyaient autour de dans une assise et ils passaient leur temps à parler des bienfaits d'Allah en appliquant la parole d'Allah Azza wa Jal. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Quant au bienfait de ton Seigneur, parle-en. Ash-shukr, la reconnaissance à Allah Azza wa Jal, c'est ce qui retient le bienfait d'Allah pour toi. Plus tu es reconnaissant, plus Allah te garde ce bienfait. Il dit, subhanahu wa ta'ala, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Et lorsque ton Seigneur a proclamé, si vous êtes reconnaissant, je vous ajouterai. Wala in kafartum inna adhabi la shadid. Et si vous venez à mécroire, notamment avec l'ingratitude, alors mon châtiment est rude. Mon châtiment est dur, qu'Allah nous en préserve. Ashouk, cette adoration-là, c'est une adoration qui est très aimée d'Allah en raison du fait que très peu sont ceux qui sont reconnaissants envers Allah. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit « وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ » Et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Quand Allah Azza wa Jalla dit « peu de mes serviteurs »« وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي » Ceux qui sont appelés « عِبَاد » les serviteurs d'Allah Azza wa Jalla se divisent en deux. Il y a les serviteurs d'Allah de ce que l'on appelle « al-ubudiyya al-amma » la servitude générale. C'est ce qui concerne tout le monde, même le kafir. C'est un serviteur d'Allah en ce sens. Dans le sens où il est dans le besoin d'Allah, il est obligé de manger la subsistance d'Allah, il est obligé de porter les bienfaits d'Allah, de se nourrir des bienfaits d'Allah, En ce sens-là, il est serviteur d'Allah, esclave d'Allah, besogneux devant Allah. Et il y a les autres serviteurs qui appliquent al-ubudiyatul khassa, la servitude spécifique. C'est celle qui concerne les croyants qui se soumettent à Allah de plein gré. Les esclaves volontaires d'Allah. Ils prennent du plaisir à être les esclaves d'Allah. Pour eux, c'est un honneur. C'est pour ça qu'ils se rabaissent. C'est pour ça qu'ils baissent au sol leur visage, qui est ce qu'ils possèdent de plus cher. Tu aimerais être défiguré? Tu n'aimerais pas. Tu vivrais mal. Beaucoup sont éprouvés par ça, qu'Allah les préserve et leur accorde la patience et des beaux visages au paradis. Cette plus belle chose que tu as en toi, tu décides volontairement de la rabaisser au sol pour vénérer celui qui est au-dessus. Et plus tu te rabaisses, plus Allah t'élève, subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man tawada'a lillahi, rafa'ahu Allah ». Quiconque se rabaisse pour Allah, Allah l'élève, subhanahu wa ta'ala. Les gens qui sont reconnaissants envers Allah, azza wa jal, réunissent en eux cette adoration à shukr, la reconnaissance. Et ils savent que la reconnaissance est constituée de trois choses. Al-qalb, le cœur. Al-lisan, la langue. Al-jawarih, les membres. Qu'est-ce que c'est shukr al-qalb, la reconnaissance du cœur? C'est de comprendre le verset et de l'appliquer. Où Allah Azza wa Jal dit وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Il n'y a pas un bienfait que vous ayez sans qu'il ne vienne d'Allah. Que tu saches de ton cœur que ce bienfait ne vient que d'Allah. Tu ne seras reconnaissant envers Allah que si ton cœur est habité par ce ressenti. Que tout ce que tu as comme bienfait, ça ne vient que d'Allah. Ça ne vient pas de toi. Zéro. Wallahi zéro. Le fait de pouvoir être avec vous ici, pour moi, c'est un des plus grands bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Et je sais que je suis zéro dans ça. C'est Allah qui l'a voulu. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. La deuxième chose, c'est que tu prononces cette reconnaissance avec ta langue et que tu parles de ce bienfait. Que tu dises Alhamdulillah. L'imam muslim rapporte un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam dit Inna Allah la yarda anil abd an ya'kul al akla fayahmaduhu alayha wa yashraba al sharba fayahmaduhu alayha. Allah est satisfait du serviteur qui dit Alhamdulillah après avoir avalé une bouchée, après avoir avalé une gorgée. Tu dis Alhamdulillah, Allah est satisfait de toi, subhanahu wa ta'ala. Cette parole, Alhamdulillah, est décrite par le prophète, alayhi salatu wassalam, qui dit, Walhamdulillahi, tamla'ul mizan. La parole, Alhamdulillah, remplit la balance de bonnes actions. Et c'est pour ça que certains savants, dans leur divergence au sujet de la question suivante, quelles sont les meilleures paroles de dhikr? Certains ont dit, ce sont les quatre paroles. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Parce que le hadith rapporté par al-Bukhari est explicite. Les meilleures paroles chez Allah, puis il a cité ces quatre paroles. D'autres disent, c'est Alhamdulillah. Pourquoi? Pour ce hadith-là. Alhamdulillah, itamla ul mizan. Alhamdulillah remplit la balance. Et ils disent que Alhamdulillah, de par la largesse de ce qu'elle veut dire, elle englobe aussi les autres paroles. Et il y a d'autres paroles aussi qui ont été dites. Mais ce que je veux ici, c'est vous montrer l'importance de la parole Alhamdulillah au point où elle remplit la balance et elle fait partie du shukr qui se fait avec la langue. Ensuite, il y a la reconnaissance à shukr qui se fait avec les membres. Avec les membres, c'est-à-dire que tu vas utiliser ce bienfait qu'Allah t'a donné au service de l'adoration d'Allah. Vous devez, dans l'étude, vous dire que vous êtes en train d'être reconnaissant envers Allah. Il vous a donné l'intelligence qui vous permet d'étudier. Vous la mettez au profit de la religion. Et vous en faites une adoration. Tu es reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. C'est une adoration et Allah te rajoute. L'imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, dans son écrit intitulé Al-Wasa'il al-Mufida lil Hayat as-Sa'ida, les moyens utiles pour une vie heureuse. Ce livre-là qui a été traduit en des dizaines de langues et qui a été la cause de la délivrance de beaucoup de gens après avoir été touchés par les troubles psychologiques, par la détresse, au point où certains savants ont dit Hadha al-Kitab Mustashfa al-Amrad al-Nafsiya. Ce livre-là, c'est un hôpital psychiatrique pour les gens. Ils écoutent ce qu'il y a dedans, ils comprennent, ça va mieux. Ce livre-là, Ibn Sa'di rahimahullah, l'a écrit alors qu'il était à l'hôpital au Liban, souffrant. Il n'avait le droit ni d'écrire ni de lire parce qu'il avait une très forte migraine. Mais il est tombé sur un livre qui a été écrit par un chrétien intitulé « Da'i al-Qalaq wa'bda'i al-Haya ». Abandonne les soucis, abandonne tes inquiétudes et redémarre ta vie. C'est un livre écrit par un chrétien qui traite de ce sujet-là, comment aller mieux dans la vie. Ibn Sa'di rahimallah l'a lit entièrement. Il a trouvé que cet homme-là disait quelque chose qui était correct. Il s'est dit qu'il fallait faire un livre semblable avec l'esprit islamique. Alors il a écrit, pendant qu'il était à l'hôpital sur son lit, il commençait à écrire « Les moyens utiles pour une vie heureuse ». Il nous apprend à être heureux en pleine souffrance, à l'hôpital, avec une forte migraine. Il se met à écrire et quand le médecin arrive, il cache tout sous l'oreiller. Et ce livre-là, il est Mubarak. Dans ce livre-là, il cite le hadith rapporté par Muslim, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam dit « Ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu lahu khayr. » Étonnante est la situation du croyant. Sa situation entière est un bien. « In asabatu sarra shakara fakana khayran lah. » Car si un bien l'atteint, il se montre reconnaissant et c'est mieux pour lui. On traduit des fois par « c'est un bien pour lui ». Mais on peut dire « c'est mieux pour lui ». Vous allez comprendre avec l'explication de Ibn Sa'di rahimahullah la valeur de ce hadith-là. Il dit, donc la suite du hadith, « وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ » Et s'il est atteint d'une nuisance, il endure et c'est un bien pour lui. Ibn Sa'di dit, le bienfait qu'Allah Azza wa Jal t'accorde, le bienfait qu'Allah te donne, lorsque le croyant se montre reconnaissant, comme il se doit envers Allah Azza wa Jal, la reconnaissance elle-même, c'est une adoration. Elle te rapproche d'Allah, elle nourrit ton cœur, elle purifie ton âme, elle t'élève chez Allah. Ce croyant-là qui est en train de remercier Allah pour un bienfait, ressent quelque chose dans son cœur qui devient meilleur que le bienfait pour lequel il est en train de remercier Allah. Allahu Akbar. Moi, je ne pouvais pas trouver ça tout seul. J'ai dû lire la parole d'un savant pour comprendre ça, mais tout seul, je ne l'aurais jamais compris. D'où l'importance de l'apprentissage. Je répète, tu reçois un bienfait, tu es reconnaissant envers Allah. Cette reconnaissance est une adoration pour laquelle Allah te récompense. Il te rapproche de lui, il nourrit ton cœur, il augmente ta foi. Et alors ce que tu ressens dans ton cœur parce que tu étais reconnaissant envers Allah est meilleur encore que ce que tu ressens pour ce bienfait pour lequel tu as été reconnaissant envers Allah. Wallahi rahimak Allah ibn Sa'di. Qu'Allah te fasse miséricorde ibn Sa'di. Le cheikh de Cheikh ibn al-Uthaymin. Rahimahullah ta'ala. La reconnaissance envers Allah. Et le serviteur dans sa vie voit trois situations. Il ne s'en détache jamais, comme le dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. La première, ni'amun, mutataliya, des bienfaits d'Allah continuels. Son obligation face aux bienfaits d'Allah, c'est d'être reconnaissant. Vous avez entendu ce qu'est être reconnaissant. Deuxièmement, des péchés qu'il commet. Son obligation face à ces péchés-là, c'est de demander le pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, des épreuves, des situations difficiles, par lesquels Allah le teste. Son obligation à ce moment-là, c'est d'être patient, c'est d'être endurant. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, celui qui s'endort va rater gros ce soir. Il n'y a pas de place pour les gens qui veulent dormir ici. Ici, c'est pour les gens qui veulent être réveillés. C'est pour les cœurs qui veulent être réveillés. Si c'est votre cas, vous êtes les bienvenus. Si ce n'est pas votre cas, revenez dans le deuxième cas pour rester parmi les bienvenus. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit, Allah n'éprouve pas son serviteur pour le détruire. La yamtahinu Allahu 'abdahu liyuhlikahu. Il ne l'éprouve pas pour le détruire. Walakinahu yabtalihi liyamtahina 'ubudiyyatahu. Mais il l'éprouve pour tester sa servitude. La servitude. Je vous conseille le livre de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah Al-'Ubudiyyah, la servitude. C'est un livre extraordinaire qui te montre qu'est-ce que ça veut dire être un serviteur d'Allah Azza wa Jal. Et Allah m'a facilité, je le remercie pour ça, de l'enseigner. Et les audios sont disponibles dans le site La Voix Droite. Walillahi alhamd wal minna. Et Allah a éprouvé son serviteur, non pas pour le détruire, mais pour tester son degré de servitude. C'est-à-dire pour voir à quel point ce serviteur-là est un esclave volontaire d'Allah, pour au final l'élever. Il dit, et ça, tout ce que je vais vous dire là, c'est l'introduction du livre « Al-Wabil al-Sayyib min al-Kalim al-Tayyib », la verse abondante de bonnes paroles. C'est un livre, vous ne pourrez pas vous en passer, vous ne devez pas vous en passer. Parmi les livres d'Ibn al-Qayyim, dont vous ne pouvez pas vous passer, il y a ce livre-là, et il y a « Adda ou Adda'wa ». Il y a d'autres livres, mais les deux, c'est déjà très très bien. Dans le livre Al-Wabil al-Sayyib, il nous dit, rahimahullah ta'ala, il y a deux situations où le serviteur est dans l'obligation de manifester une servitude pour Allah subhanahu wa ta'ala. La première situation, c'est halatu ar-raha, la situation d'aisance. Lorsque tu as des bienfaits, que tu es à l'aise, que tout va bien. Et la deuxième, halatu darra, la situation de contrainte, de lourdeur, de difficulté. C'est ces deux situations qu'on retrouve dans le hadith. Étonnante est l'affaire du croyant. Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit, wa aktharu an-nas, la plupart des gens, yu'tuna al-'ubudiyyata fi hali sarra. Ils appliquent la servitude d'Allah azza wa jal uniquement quand tout va bien. Pas dans ce qui est difficile. Alors que tout se joue dans ce qui est difficile. Attention. Ça ne veut pas dire qu'on cherche volontairement à faire ce qui est difficile. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a jamais eu le choix entre deux choses sans prendre la plus simple. Mais, lorsqu'une situation difficile te vient, dans celle-ci, c'est là que tu vas montrer les hauts degrés de servitude à Allah, azza wa jal. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, donne des exemples. Il dit faire ses ablutions est une servitude. C'est une adoration. Faire ses ablutions avec de l'eau fraîche en plein été quand la chaleur est intense. C'est facile à faire. C'est une adoration. Mais qui est facile? Faire ses ablutions en plein hiver avec de l'eau froide. C'est une adoration aussi. Mais elle est difficile. Celle-ci, en termes de hasanat, de récompense, elle est plus grande que l'autre. Bien que la personne n'a pas eu le choix. Si elle avait eu le choix, on lui aurait dit « choisis la facilité ». La plupart des gens, nous dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, adorent Allah azza wa jal que quand c'est facile et pas quand c'est difficile. Alors que tout se joue quand c'est difficile. Et ceux qui adorent Allah tabaraka wa ta'ala, dans les deux situations, dans la facilité et dans la difficulté, sont ceux qui sont concernés par la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, alaysa Allahu bikafin 'abda. N'est-ce pas qu'Allah suffit à son serviteur? Et dans une autre lecture, ibada, ses serviteurs. Et les deux veulent dire la même chose. Ceux qui apprennent l'arabe, al-mufrad, al-mudaf, yufidul umum. Lorsque le singulier est annexé, le sens qui est voulu, c'est le pluriel, même si le mot est à la forme du singulier. C'est dans les règles du tafsir et dans les hadiths. N'est-ce pas qu'Allah est suffisant à ses serviteurs? Qui sont ses serviteurs? Desquels Allah parle quand il dit, subhanahu wa ta'ala, qu'il est suffisant pour eux? Ce sont justement ceux qui ont appliqué la servitude dans les deux situations, et pas que dans une, dans la difficulté et dans la facilité. Ils ont complété ces deux volets, ces deux portes d'adoration, alors Allah les suffit, subhanahu wa ta'ala. Il les suffit contre quoi et contre qui? Contre Iblis, al-Shaytan. Il ne peut rien pour eux, contre eux. Il ne peut rien contre eux. Il n'arrive pas à les nuire. C'est pour ça que dans un hadith authentique que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, et que j'ai fait découvrir à notre frère Ibrahim qui vient d'arriver et qui va nous honorer, inshallah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna al-mu'mina la yundi shayatinahu kama yundi ahadukum ba'irahu. » Certes, le croyant épuise ses diables, tout comme l'un d'entre vous épuise son chameau. Tu vois, quand tu montes sur le chameau et tu lui fais porter des lourdes charges, tu l'emmènes dans le désert en plein soleil. Il doit porter tout ça. Et tu le mets un coup pour qu'il avance, pour qu'il aille à gauche, à droite. À la fin, tu l'as épuisé. Le croyant, quel croyant? Le serviteur qui adore Allah dans les deux situations, dans la difficulté et dans l'aisance. Il est toujours dans son lien avec Allah. Il épuise le shaytan qui est toujours à côté de lui pour le tenter au péché, comme quelqu'un épuise le chameau dans le désert. Subhanallah. Ibn al-Qayyim rahimallahu ta'ala explique un peu ce hadith. Il apporte quelques fawaïd que je vais essayer, inshallah ta'ala, de vous retrouver très rapidement, parce que j'ai envie de la dire. Je pourrais vous la dire comme ça avec le ma'na, avec le sens, mais je l'ai envoyé à mon frère Abu Talha il n'y a pas longtemps, donc je l'ai dans mes échanges avec lui. Et je vais vous la lire dans un instant, Inch'Allah ta'ala. Naam. Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala a dit, il épuise ces shayatin. Pourquoi? لأنه كلما اعترضه. Parce que chaque fois, il épuise son diable, parce que chaque fois que le diable s'oppose à lui ou vient pour l'inciter à pécher, صب عليه سياط الذكر والتوجه والاستغفار والطاعة. Ce croyant se met à fouetter le diable. Avec quoi? Avec les fouets. Quels fouets? Des vrais fouets? Avec les fouets du dhikr, du rappel d'Allah Azza wa Jal, de la demande de pardon d'Allah, de l'obéissance à Allah. Chaque fois que tu fais du dhikr, tu fouettes Shaytan. Alhamdulillah qui nous a permis de le fouetter à Mecca, à côté de la Kaaba. Et on va lui en donner. Et on va le faire souffrir. Et on va le fatiguer comme un chameau qui arrive à destination tout maigre. Bi-idhnillahi wa bi-quwwatihi azza wa jal. Tu le fouettes avec l'istighfar, avec l'obéissance, avec les invocations. Il dit, فَشَيْطَانُهُ مَعَهُ فِي عَذَابٍ شَدِيدٍ. Et alors, son diable est avec lui dans un châtiment extrême. Il souffre. لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ شَيْطَانِ الْفَاجِرِ. Il n'est pas au même degré que le diable du fajir, le pervers, qui a rempli son cœur d'autre qu'Allah Azza wa Jal. Lui, son shaitan à lui, il est fort. Il est fort. الَّذِي هُوَ مَعَهُ فِي رَاحَةٍ وَدَعَ وَلِهَذَا يَكُونُ قَوِيًّا عَاتِيًا شَدِيدًا. Ce shaitan, il est avec lui tout le temps. C'est pour ça qu'il est fort contre lui. Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidhahullah ta'ala, a dit, يفسره vient expliquer ce propos-là, ما رواه معمر ابن راشد في جامعه عن ابن مسعود رضي الله عنه. Ce qui est rapporté de Abdullah ibn Mas'ud, qui dit quelque chose qui est étonnant. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a dit, « Inna shaytan al-mu'min yalqa shaytan al-kafir. » Le diable du croyant rencontre le diable du mécréant. Et qu'est-ce qui se passe? « Fayara shaytan al-mu'min shahiba. » Et il voit le diable du croyant qui est complètement affaibli. Il souffre. Il est là pour marcher avec le croyant, mais en vérité, ce croyant est en train de le faire souffrir. Arbara, mahzoulan. Il est ébouriffé. Il est complètement affaibli. Dans le jargon, on leur a dit, il est tout sec, tout maigre, mahzoul. Fayaqulu lahu shaytanul kafir. Le diable du kafir lui dit, au diable du croyant, malaka wayhak. Le diable du kafir lui dit, mais qu'est-ce que tu as? Malheur à toi, qu'est-ce qui t'arrive? Qad halakt, tu as péri. Fayaqulu shaytanul mu'min, le diable du croyant, qu'est-ce qu'il lui répond? La wallah, ma asilu ma'ahu ila shay. Wallah, et par Allah, avec lui, je n'arrive à rien. Je n'arrive à rien avec lui. Idha ta'ima dhakara smallah. Lorsqu'il mange, il évoque le nom d'Allah. Wa idha shariba dhakara smallah. Quand il boit, il évoque le nom d'Allah. Wa idha nama dhakara smallah. Quand il dort, il évoque le nom d'Allah. Wa idha dakhala baytahu dhakara smallah. Et quand il entre chez lui, il évoque le nom d'Allah. Fayaqulu al-akhar. Et alors le shaytan du kafir lui répond, lakinni akulu min ta'ami wa ashrabu min sharabi. Quant à moi, je mange avec lui, je bois avec lui. Je bois avec lui. Wa anamu ala firashi, et je dors sur son lit. Fa hadha shahib wa hadha mahzoul. Il y en a un qui est fort et il y en a un qui est donc faible. Regardez l'importance du dhikr. Et c'est ça là le sens de la parole d'Allah Azza wa Jal, alaysa Allah bikafin 'abdah, n'est-ce pas qu'Allah suffit à son serviteur? Et c'est pour ça que Shaytan, lorsqu'il s'est adressé à Allah Azza wa Jal après lui avoir demandé un répit, un délai, le temps d'essayer d'égarer les gens, قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Il lui a dit, je jure par ta puissance que je vais tous les faire dévier de ta voix. Et qu'est-ce qu'il a dit après? إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Sauf tes serviteurs. Quels serviteurs? الْمُخْلَصِينَ. Ceux que tu as élus, que tu as choisis. Ceux qui t'ont adoré dans les deux situations, dans la difficulté et dans l'aisance. Ceux-là, je ne peux rien. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal lui a dit, inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Mes serviteurs, tu n'auras aucune emprise sur eux. Si tu veux que le shaitan n'ait pas d'emprise sur toi, tu n'as qu'à pas lui ouvrir la porte. Tu n'as qu'à pas toi-même l'inviter en toi. Et comment on invite le shaitan? En désobéissant à Allah Azza wa Jal. En délaissant le dhikr. Vous voyez l'importance du dhikr? Ibn al-Qayyim te dit que quand tu évoques le nom d'Allah, tu fouettes le shaitan. On est en train de le fouetter bien comme il faut là. Mara'yuk. Tu le fouettes. Tu le fouettes avec le dhikr. Alors pourquoi tu ne fais pas tes invocations du matin, tes invocations du soir, avant de dormir, au réveil, avant la prière, après la prière? Tout ça, ça te permet de lui faire mal bien comme il faut. Et c'est ça le remède. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في تعذيب إبليس وجنده. On demande à Allah de nous utiliser pour châtier Iblis, pour le torturer lui et ses semblables. Et wallahi, wabillahi wa ta'Allah, qu'ils sont en train de souffrir là. Tous vos shayatins là qui sont à droite ou à gauche ou je ne sais où de vous, ils sont en pleine souffrance. Et chaque fois que tu fais une bonne action comme ça, arme-toi pour la suite. Parce qu'ils vont tout faire pour se rattraper. Ne lâche pas le dhikr. Ne lâche pas la ibada. Invoque Allah Azza wa Jal. Je m'arrête ici. Peut-être que si Allah nous permet une autre rencontre, je m'étalerai davantage. Parce qu'il y a encore beaucoup plus à dire que ce que vous venez d'entendre. C'est qu'une goutte dans la mer et une fleur dans un jardin gigantesque. Mais mon très cher frère Ibrahim Abu Talha, mon compagnon, mon ami, mon frère, bima'na al-kalima, va prendre la parole, inshallah ta'ala, et comme d'habitude, il va me laisser loin derrière, inshallah ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa alhamdulillahi rabbil alamin.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد. Nous sommes dans la 27e nuit du mois béni de Ramadan. Et le prophète عليه الصلاة والسلام nous a encouragé à rechercher Laylatul Qadr en redoublant d'adoration dans la prière de nuit, dans la lecture du Coran, dans les du'as, durant les 10 dernières nuits. Puis il a insisté particulièrement pour celui qui aurait des difficultés sur les nuits impaires. Puis il a spécifié particulièrement pour celui qui serait occupé ou aurait des difficultés dans les 7 dernières nuits. Et la nuit dans laquelle on espère le plus chez Allah Laylatul Qadr, c'est celle-ci, la 27e nuit. Aussi, parmi l'honneur qu'Allah fait à son serviteur, c'est le fait de lui permettre de se tenir debout devant lui durant la nuit. Jibril alayhi salam est venu voir le prophète alayhi salatu wa salam et lui a dit: Ya Muhammad, عيش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه وأعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل واستغناؤه عن الناس. Ô Muhammad, aime qui tu veux, ou plutôt vis ce que tu veux, mais tu mourras. Aime qui tu veux, tu t'en sépareras. Fais ce que tu veux, tu en seras rétribué. Et sache que la noblesse du croyant réside dans sa prière de nuit et le fait de se dispenser d'avoir besoin des gens, et le fait de se passer des gens. Si Allah Azza wa Jal t'a permis de te lever la nuit et de l'adorer, c'est qu'il a voulu pour toi le bien et t'anoblir. La prière de nuit, sharaful mu'min, c'est la noblesse du croyant. La prière de nuit, c'est une lumière, le jour où on sera plongé dans le noir. La prière de nuit, c'est la lumière dont tu auras besoin pour les ténèbres de la tombe et du jour de la résurrection, pour les ténèbres lorsqu'il faudra traverser As-Sirat. Qu'Allah Azza wa Jal nous assiste. Aussi, Allah Azza wa Jal nous a réunis dans le meilleur endroit au monde pour ces dernières nuits. Et cela, comme disait le shir de nos shuyur, ça n'est pas par notre force. Ça n'est pas par notre intelligence. Ça n'est pas grâce à nous. Mais c'est une chose qu'Allah a voulu pour nous, comme le disait le shir de nos shuyur, Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Et un des trésors du paradis est la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de capacité pour passer d'un état à un autre, d'un mal vers un bien, d'un égarement vers une guidée, d'une ignorance vers une science, illa billah, que par Allah. Aussi, ces assises sont des jardins du paradis, sont des endroits où tu fais vivre ton cœur. La vraie vie, c'est la vie pour Allah, par Allah. La vraie vie, c'est la vie pour Allah, par Allah. Le fait de marcher sur un chemin clair qui achemine vers Allah et la demeure de l'au-delà. Et dans ces assises, chez Ahli Sunnah et Wal Jama'a, dans ces assises avec Ahli Sunnah, avec Talabat al-Ilm, Wallahi al-Azim, que le cœur vit. Que le cœur vit. Il se peut même qu'une assise comme ça soit la cause d'une guidée jusqu'à poser ton pied au paradis. Et combien de gens égarés Allah subhanahu wa ta'ala a guidé par ces assises. Et combien de gens pervers Allah azza wa jal a rendu salihoun par ces assises. Et combien de gens ignorants Allah Azza wa Jal a rendu talib ilm par ses assises. Et je vais vous mentionner un hadith sur le mérite de ces assises. Et afin que vous sachiez ce que vous avez à gagner à vous asseoir dans les assises de rappel. L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim rapportent que Abu Hurayra radiallahu anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna lillahi malaikatan yatufuna bitturuq yaltamisuna ahla dhikr. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي قالوا يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فيقول هل رأوني قال فيقولون لا والله ما رأوك قال فيقول وكيف لو رأوني قال ويقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا قال ويقول فما يسألوني قال يسألونك الجنة قال ويقول وهل رأوها قال ويقول لا والله يا رب ما رأوها قال ويقول فكيف لو أنهم رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمما يتعوذون قال يقولون من النار قال ويقول هل رأوها قال ويقولون لا والله يا رب ما رأوها قال ويقول كيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم أني قد غفرت له قال ويقول يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. Allah a des anges qui parcourent la terre, qui parcourent les chemins à la recherche des assises de rappel, les assises dans lesquelles on mentionne Allah. Et lorsqu'ils en trouvent une, ils s'appellent mutuellement. Venez, accourez, on a trouvé ce qu'on recherche. Et ils remplissent l'espace jusqu'au ciel. Ils sont tellement nombreux ces anges qu'ils remplissent l'espace de ce bas monde jusqu'à atteindre le ciel. Et ils entourent ces personnes de leurs ailes. Puis Allah les interroge. Que disent mes serviteurs? Alors qu'il est plus savant, il répond, il te glorifie, il t'exalte, il te loue, il te magnifie. Allah leur demande, et les plus savants, m'ont-ils déjà vu? Ils répondent, non, par Allah, ils ne t'ont pas vu. Il dit, qu'en serait-il s'ils m'avaient vu? Ils répondent, s'ils t'avaient vu, ils t'adoreraient encore plus intensément, intensément et te magnifierait davantage et t'exalterait encore plus. Il demande, que me demande-t-il? Les anges répondent, ils te demandent le paradis. Et est-ce qu'ils l'ont vu? Dit Allah. Ils répondent, non au Seigneur, ils ne l'ont pas vu. Qu'en serait-il s'ils l'avaient vu? Ils répondent, s'ils l'avaient vu, ils y aspireraient encore plus ardemment, la rechercheraient encore davantage et en désireraient encore plus. Allah leur demande, contre quoi recherchent-ils protection? Ils répondent, contre le feu, contre l'enfer. L'ont-ils vu? Allah leur demande. Ils répondent, non, au Seigneur, par Allah, ils ne l'ont pas vu. Qu'en serait-il s'ils l'avaient vu? Les anges répondent, s'ils l'avaient vu, ils le fuiraient encore plus loin et en auraient encore plus peur. Allah leur dit, je vous prends tous à témoin que tous ces gens de l'assise, je leur ai pardonné. Allah Azza wa Jal dit aux anges, tous ces gens de l'assise, je leur pardonne à tous. Je leur pardonne à tous dans une version et j'accorde à chacun ce à quoi il aspirait, c'est-à-dire le paradis, et je préserve chacun contre ce qu'il redoutait, c'est-à-dire l'enfer. C'est alors qu'un ange parmi eux dise, ô Seigneur, mais parmi eux, il y a un tel, il ne fait pas partie d'eux. Il n'est venu que pour un besoin. Alors Allah Azza wa Jal lui dit, même lui, je lui ai pardonné. Même lui, celui qui est venu de passage, il avait besoin de quelque chose, il va repartir. Même lui, je lui ai pardonné. Ce sont des personnes jamais on est perdant à s'asseoir avec eux. Ce sont des personnes, jamais on est perdant à s'asseoir avec eux. Dans une assise comme celle-ci, tu gagnes le paradis d'Allah. Tu gagnes la protection contre le feu de l'enfer. Et tu gagnes le pardon pour tes péchés. C'est pour ces assises qu'on voyage à la recherche de la science. C'est pour ces assises qu'on va s'asseoir au pied des savants. C'est pour ces assises qu'on a voyagé. C'est pour ces assises qu'on espère voyager. C'est pour ces assises qu'on dépense. C'est pour ces assises qu'on met femmes et enfants de côté un temps déterminé. C'est pour ces assises qu'on a laissé nos familles. C'est pour ces assises qu'on a laissé nos parents. Parce qu'il n'y a pas meilleur dans ce bas monde que ce qui te rapproche d'Allah. T'aide à le connaître, à l'aimer, à le craindre, à le redouter et à espérer tout ce qui se trouve auprès de lui. Avec ces assises-là, tu deviens un homme. Avec ces assises-là, tu deviens un véritable croyant. Avec ces assises-là, tu aspires à l'Ihsan. Et la parole qui a précédé est suffisante, mais je vais me permettre de compléter l'allocution de la soirée passée au sujet de la protection d'Allah et de la préservation d'Allah de ses serviteurs croyants. On a énuméré l'importance de ce sujet. On a énuméré certaines causes qui amènent à être sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va conclure ce sujet par des exemples pris du Coran et de la biographie des prophètes. Allah Azza wa Jal les a protégés de manière générale, les a fait grandir dans le bien, les a préservés. Et dans les moments les plus périlleux, Allah subhanahu wa ta'ala les a protégés. Et c'est Al-Hafidh et c'est Khayru Hafidha. Aussi, commençons par Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam a invité son peuple à l'islam pendant 950 ans. Et très peu parmi eux ont cru. Alors Allah Azza wa Jal lui a dit de construire l'arche. Il l'a donc construit sur la terre ferme. Et les gens passaient et se moquaient de lui. Il leur disait, si vous moquez de moi, moi je me moquerai de vous à mon tour. Et Allah Azza wa Jal lui a dit de prendre de chaque espèce un mâle et une femelle. Et de prendre avec lui tous ceux qui ont cru en Allah et ont suivi le prophète Nuh alayhi salam. Puis Allah Azza wa Jal a ordonné au ciel de lâcher son eau. Il y a eu le déluge et ça a englobé la terre. Et Nuh seulement et ceux qui l'ont suivi ont vogué sur la terre et ont été préservés. Et Allah Azza wa Jal a anéanti les autres. Il nous dit « فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ » Mais ils le traitèrent de menteur. Nous le sauvâmes donc, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Et nous noyâmes ceux qui traitaient de mensonges nos signes. C'étaient des gens aveugles. Ça, c'est un exemple de l'histoire de Nuh alayhi salam. Un exemple maintenant de l'histoire de Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam naît dans une année où Pharaon ordonne de tuer tous les enfants de sexe masculin. Alors sa mère le cache. Allah Azza wa Jal la guide à prendre son enfant, à le mettre dans un berceau et le mettre sur le Nil. Cet enfant vogue jusqu'à arriver dans les mains de Asiya, cette femme vertueuse et pieuse, l'épouse de Pharaon. Pharaon veut le tuer, elle lui dit non, ne le tue pas. Ainsi on le prendra comme enfant, il deviendra la prunelle de nos yeux. Alors celui qu'il cherche pour l'assassiner, il le fait grandir dans son foyer. Plus loin, Allah Azza wa Jal en fait un prophète. Et avant cela, en défendant une personne par, yani involontairement, il tue une personne. Le lendemain, on complote et on ourdit pour s'attaquer à lui. Alors on lui conseille de fuir et il part. Il part en invoquant Allah Azza wa Jal, en abandonnant son affaire à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala le guide. Il vient à aider deux femmes qui ne sortent de chez elles que parce que leur père est âgé. Et le père de ces femmes invite Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam se met au pied d'un arbre et il invoque son Seigneur. Allah Azza wa Jal le guide, le préserve, le protège, lui donne une épouse, il repart et il en fait un prophète. Allahu Akbar. Il revient. Allah Azza wa Jal lui dit d'aller prêcher Pharaon, d'aller inviter Pharaon à l'islam. Il dit, mais j'ai fait telle chose et telle chose, j'ai peur qu'il se venge et mon frère Haroun est plus éloquent que moi. Permets-lui de s'associer à moi dans ma mission. Allah Azza wa Jal fait de son frère Haroun un prophète. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله عز وجل أردنا موسى عليه السلام et Haroun d'aller inviter Pharaon au tawhid, à l'islam, et il leur promet d'être avec eux, de les secourir, de les défendre, de les protéger. Pharaon s'enorgueille. Pharaon refuse le message. Et à la fin, il lève une armée pour assassiner Moussa alayhi salam. À court d'arguments, ils veulent assassiner les croyants. Et c'est là qu'Allah Azza wa Jal ordonne à Moussa de prendre Banu Israël et de fuir vers la mer. Pharaon lève une armée et il les rejoint. Et là, le peuple de Moussa arrive face à la mer. La mer est devant eux. Les troupes de Pharaon et l'armée derrière eux, ils disent « Inna la mudrakun ». Moussa alayhi salam, qui connaît son Seigneur et qui sait que c'est le Hafidh, le protecteur, dit « Kalla, inna ma'iya rabbi, sayahdin ». Jamais il y a avec moi mon Seigneur et il me guidera. Allah Azza wa Jal lui ordonne de taper de son bâton la mer et il fait qu'elle se soulève. Et ça fraye 12 chemins et les vagues gigantesques se retrouvent comme telles des montagnes. Le sol est devenu sec comme s'il n'y avait jamais eu d'eau. Ils ont traversé la mer. Ils sont tous sortis de la mer. Le peuple de Pharaon est rentré dans la mer. Ils se sont tous retrouvés dans la mer. Et là, Allah Azza wa Jalla a ordonné à l'eau de se refermer. Et il a noyé, anéanti Pharaon et ses suiveurs. Et il a sauvé Moussa, alayhi salam, et ses suiveurs. فَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى نِدْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرُ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. Nous révélâmes alors à Moïse, nous révélâmes alors à Moussa, frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit et chaque versant fut comme une immense montagne. Puis nous fîmes avancer les autres, c'est-à-dire les troupes de Pharaon. Nous sauvâmes alors Moussa et tout ce qui était avec lui. Et nous noyâmes ensuite les autres. C'est ainsi qu'Allah a préservé, a protégé son prophète et ses suiveurs. Un troisième exemple, Younous, Dhunnoun, l'homme au poisson, Younous alayhi salam. Younous alayhi salam tombe à la mer. Il tombe à la mer, faltaqatahu al-hout wa huwa mulim. Et là, il s'est fait avaler par une baleine. Il s'est fait avaler par une baleine, il est en colère contre son peuple. Alors qu'il se retrouve dans les ténèbres, alors que personne ne sait où il est, ni dans quelle situation, il se dirige vers le roi des rois, il se dirige vers le protecteur, il se dirige vers El-Hafidh, il se dirige vers celui qui connaît son état, vers celui qui sait son état, vers celui qui voit tout, celui qui entend tout, le meilleur des garants, le meilleur des protecteurs. Et qu'est-ce qu'il dit ? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est toi. Exempt sois-tu. J'étais certes du nombre des injustes. Allah Azza wa Jal lui répond, d'au-dessus de sept cieux, d'au-dessus de son trône, il a entendu l'invocation de son serviteur. Et il lui a répondu. Et il a mentionné cela dans le Coran. Et on le récite. Fastajabna la. Nous lui répondîmes. Allah Azza wa Jal lui a répondu. Et Allah Azza wa Jal nous raconte cette histoire. Fanada fi dhulumat wa dhannuna id dhahaba mughadiba fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumat an la ilaha illa ant subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Il a invoqué son Seigneur. Allah Azza wa Jal lui a répondu. Allah Azza wa Jal lui a répondu. Fanajaynahu min al-gham. Il l'a sauvé de l'affliction dans laquelle il se trouvait, de son souci. Est-ce que ce secours-là, est-ce que cette protection, elle est que pour Younous? Non. Allah Azza wa Jal nous dit, كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. C'est ainsi que nous sauverons les croyants. C'est-à-dire si toi, tu suis le chemin de Younous, tu suis le chemin des prophètes, tu es sur le tawhid, tu es dans l'affirmation et la négation, dans les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, tu affirmes la perfection, tu rejettes de lui l'imperfection. Allah Azza wa Jal, toi aussi, va te secourir, comme il a sauvé Younous alayhi salam. Les exemples du Coran sont très nombreux. Allah Azzawajal a protégé son serviteur Ibrahim alayhi salam, Khalil ar-Rahman, lorsque son peuple a complété contre lui, parce qu'il avait cassé leur fausse divinité, parce qu'il les invitait au tawhid. Il a appelé son père au tawhid. Son père lui a dit, si tu ne cesses pas, je vais te lapider, tu t'éloigneras de moi un très long moment. Qala salamun alayk. Paix sur toi. Hein? Ça ne leur a pas suffi. Ils ont allumé un feu ardent. Et il était tellement ardent qu'ils ont dû construire une catapulte pour le catapulter dans le feu. Ils se sont tous joints contre lui. Et il n'y avait comme croyants que très peu de personnes. Ils l'ont mis, ils l'ont jeté dans le feu. Alors qu'il était dans les airs, il a dit, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit. Et quel bon garant. Allah subhanahu wa ta'ala d'au-dessus de sept cieux, au-dessus de son trône, l'a entendu. Et il lui a répondu. Et il a ordonné au feu qui a pour nature de brûler, de détruire, de devenir fraîcheur. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Comme a dit le shir de nos shiur, fakanat, dans sa khutba, el faraju ba'da shidda. Fakanat, shir mukbir rahimallahu ta'ala, cite ce verset et dit que c'était une des plus grandes preuves pour montrer qu'après la difficulté, aux croyants, il y a la facilité. On l'a catapulté dans le feu. Il s'est dirigé que vers Allah. Allah Azza wa Jalla a ordonné au feu de devenir fraîcheur salitaire. Il est devenu. Il est devenu. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla l'a sauvé. Puis Allah Azza wa Jalla lui a permis de faire l'égir. Allah Azza wa Jalla a sauvé Sarah des griffes du gouverneur injuste qui a essayé de lui causer du tort. Et elle est repartie avec Hajar comme servante. Puis de Hajar, Allah Azza wa Jalla a donné à Ibrahim alayhi salam Ismaïl. Puis de Hajar, Allah Azza wa Jalla a donné l'eau de Zemzem. Puis de Ibrahim et Ismaïl, Allah Azza wa Jalla a donné la Kaaba. Et cette eau de Zemzem que je vais boire, c'est ça la cause. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla est le meilleur des protecteurs. Je vais finir par l'exemple du meilleur des prophètes et messagers car le temps est court. Sinon, il y avait l'exemple de Isa quand ils ont essayé de l'assassiner. Walakin shubbiha lahum. Ils ont assassiné une autre personne qui lui ressemblait. On aurait pu citer tant d'histoires de prophètes et de messagers. L'histoire de Hud, lorsqu'il se tient debout devant toute sa communauté. Et il leur dit, Fakiduni Jamian. Tous ensemble venez. Hein? Tous ensemble debout devant toute la communauté. Et c'est pas un peuple de faibles. C'est un peuple qu'Allah Azza wa Jalla a décrit. C'était des gens extrêmement forts, extrêmement injustes. Et lui, il était plus courageux qu'eux parce qu'il avait Allah avec lui. Et quand t'as Allah avec toi, t'es l'armée imbattable, même si t'es seul. C'est tenu devant eux. Il leur a dit, Fakiduni Jamian. Venez tous ensemble. Inni tawakkaltu ala Allah Rabbi. Moi, je compte que sur Allah. J'ai placé toute ma confiance en Allah, mon Seigneur, jusqu'à la fin des versets. Allahu Akbar. Le prophète Mohammed alayhi salat wa salam appelle son peuple au tawhid, appelle son peuple à la ilaha illallah. Il renie, il mentent sur lui, ils le calomnient, ils agressent ses compagnons, finissent par les assassiner. Ils complotent pour l'assassiner. Allah Azza wa Jal lui permet de faire l'égir. Il fait l'égir avec son compagnon Abu Bakr, le meilleur des compagnons radiallahu anhu. Ils prennent un guide. Ils se réfugient trois nuits dans une caverne. C'est alors qu'ils retrouvent leurs traces. Ils s'approchent. Et là, Abu Bakr aperçoit leurs pieds. Et il dit, Ya Rasulallah, لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. Au messager d'Allah, si l'un d'entre eux regarde à ses pieds, il nous apercevra. Et là, Allah Azza, le prophète alayhi salat wa salam, lui dit non. La tahzan, ne sois pas triste. Inna Allah ma'ana. Allah est avec nous. Allah Azza wa Jal nous raconte cette histoire dans le Coran. Illa tansuru. Faqad nasarahu Allah. Idh akhrajahu alladhina kafaru thani athnain idhuma fil ghar. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Inna Allah ma'ana. Si vous ne le secourez pas, Allah l'a certes secouru. Lorsqu'ils l'ont fait sortir, deuxième de trois, alors qu'ils étaient dans la grotte, lorsqu'il dit à son compagnon, ne sois pas triste, Allah est avec nous. Pourquoi il lui a pas dit, n'aie pas peur? Parce qu'Abouak n'avait pas peur pour lui. Mais il aimait tellement le prophète alayhi salatu wassalam qu'il avait peur qu'il lui arrive quelque chose. Il pensait pas à sa vie. Il pensait à la vie de celui qui porte le message avec lui. qui porte ce message qui va nous parvenir à nous des siècles après, par lequel on va vivre la vraie vie pour Allah, au nom d'Allah, à la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah l'a secouru. Allah les a protégés. Puis ils ont pu arriver à Médine en près de 2 semaines. Quand on fait Médine-Mecca en 1 jour, hein, en train ou en car quelques heures, eux ils l'ont fait en près de 2 semaines, avec une rançon sur leur tête. Avec une rançon sur leur tête. Et les habitants de Médine, les Ansar, chaque jour ils sortaient pour voir est-ce qu'ils arrivaient. Et c'est alors qu'une personne des gens du livre était sur son toit, et il les a vus de loin, et il a crié « Ya Bani Qayla, celui que vous attendez est arrivé, Jadet Doko ». Et là, le prophète est rentré avec Abu Bakr sur la monture. Et ils ont dit « Allahu Akbar, Ja Rasulullah, Allahu Akbar, Ja Muhammad ». Et ils sont sortis. Anas ibn Malik dit « Il n'y a pas un jour où Médine a été plus illuminée que le jour où le prophète est rentré. Et il n'y a pas un jour où Médine a été plus assombrie que le jour où le prophète alayhi salatu wa salam est décédé. C'est ainsi qu'Allah a sauvé son prophète, a sauvé son messager, a sauvé Abu Bakr. Et de ce voyage, 10 ans après, ils sont repartis. Ils ont conquis la Mecque. Moins de 10 ans après, ils ont conquis la Mecque. Ils sont rentrés à Mecca. Ils ont cassé les idoles. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, disait déjà, al-haq wa zahaq al-batil. La vérité est venue et le faux a disparu. Et ils cassaient les idoles. Il y avait plus de 360 fausses divinités autour de la Kaaba. Et nous voici aujourd'hui, Ikhwat al-Iman, dans ce même endroit, le berceau de la prophétie, le berceau du prophète alayhi salatu wa salam, bihamdillahi azza wa jal, on prononce la ilaha illallah à voix haute. On se réunit ici pour adorer notre Seigneur avec la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, en sécurité, sans craindre le mal de qui que ce soit. On est dans les dernières nuits du mois de Ramadan. Allah nous observe. Wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim. Allah te dit dans le Coran, place ta confiance au puissant, au très miséricordieux, celui qui te voit quand tu te lèves. Allah azawajal t'observe quand tu pries la nuit. Eh ben, on doit montrer cette nuit à Allah le meilleur de nous-mêmes. Il reste quelques nuits, quelques jours, ikhwat al-iman, avant la fin de Ramadan. Arullah min anfusikum khayra. Montrez le meilleur de vous à Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut qu'on concorde avec un moment où Allah pardonne, où Allah descend sa miséricorde, où Allah inscrit tous ceux qui sont en prière au paradis et qu'on soit du nombre de ces gens-là. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte la dua qu'on fera à ce moment-là, ou accepte le ta'min, quand on va dire amin au dua de l'imam. Il se peut que ça concorde avec le moment où Allah accepte. Il se peut que tu aies fait dua pour tes parents, rentre au paradis. Il se peut que tu aies fait dua pour qu'Allah guérisse ton enfant, il sera guéri. Il se peut que tu aies fait dua pour qu'Allah fasse de toi un savant de la sunna ou ton enfant. Il se peut qu'Allah azawajal fasse que nous tous ensemble, il nous joigne au paradis et qu'on soit à la sururil mutaqabilin, qu'on soit sur des divans et sur des fauteuils face à face au paradis, en train de siroter nos cocktails, nos délices, et en train de discuter et se rappeler ces assises-là. Parce qu'au paradis, les gens vont s'asseoir ensemble. Ils vont discuter et ils vont s'en rappeler le bien. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi an yudkhilana ajma'in jannatah, jannat al-firdaus, ma'a abaina wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyatina wa ulama'ina wa wulati umurina wa man ahabbana fih wa man ahbabna fih. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات